France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils ont planché sur les sujets de philo du bac 2018. Et à chaque intitulé, ils ont répondu oui, bof, ah ben non, ça va pas ou quoi. C'est ce qu'on appelle le sens de la synthèse, donc bravo à eux. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le communicant Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Également Charlotte Dornelas, bonsoir. De Valeurs Actuelles, Malik Lounès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du Conseil National du Parti Socialiste, et Stéphane Vernet, bonsoir.
Bonsoir.
De Ouest France. Et ce soir, on parlera des 80 km/h qui ralentissent un tout petit peu le gouvernement, Angela Merkel qui tangue. Un an après, les députés et La République En Marche passaient au crible. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. J'ai une super idée de concept. C'est une candidate qui s'associe à un candidat avec qui elle ne s'entend pas du tout. Et ensemble, ils vont devoir gérer le premier parti d'opposition. On le suivra dans un confessionnal et on verra combien de temps ils tiennent, en fait. Et après, ça sera au public d'éliminer un des deux. Ça va cartonner. Voilà. Finalement, l'histoire entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels ressemble à une émission de télé-réalité et rien de plus normal puisque Calmels a travaillé chez Andemol, les producteurs, entre autres, de Love Story. Depuis quelques semaines, plus rien n'allait entre la numéro 2 et le numéro 1 des Républicains. Et hier, Laurent Wauquiez a officialisé la rupture, nommant Jean Leonetti. Jean Leonetti à la place de Virginie Calmels, au plaisir de la députée européenne Nadine Morano.
Il a eu raison de faire preuve de fermeté et d'assumer son rôle de chef de notre famille politique. Cette décision a été très attendue à la fois par nos militants qui sont exaspérés de cette cacophonie interne. Voilà, on travaille tous ensemble et ça n'est pas acceptable qu'une personne veuille ainsi démonter alors que la ligne politique qu'elle a choisie et qui est incarnée par Laurent Wauquiez, eh bien c'est celle que nous défendons et que nos militants ont voulu.
Nadine Morano, ce matin sur France Info, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que finalement c'est plus clair maintenant ?
Alors plus clair, je ne sais pas.
Le fait que, en fait, une jupéiste comme Virginie Calmels ne soit plus numéro 2.
C'est plus clair parce qu'elle part, et puis c'est plus clair parce que ça valide la thèse qui est que Wauquiez choisit une stratégie à droite toute. On voit bien que Morano est absolument enthousiaste à l'idée de le défendre. Ça sent qu'elle a de la chaleur, elle a de l'envie d'être là. Et pourtant, les sarkozystes continuent à défendre Wauquiez, continuent à défendre cet alliage-là. Donc il y a de la vérité en même temps dans la stratégie parce que c'est la seule stratégie possible face à Macron. Il y a beaucoup d'électeurs de droite qui aiment beaucoup Macron, qui sont contents des mesures qu'il prend. J'ai rencontré pas mal d'anciens fillonistes à titre personnel qui m'ont dit « Maintenant, on est Macron. On se reconnaît pas dans Wauquiez parce que, ça c'est leur expression, c'est un cateau sac à dos. Nous, on n'est pas cateau sac à dos. On est un petit peu au-dessus de tout ça. Donc, on est content de Macron. On veut pas de lui. » Et au fond, il y a un problème de résistance dans le temps de Wauquiez. S'il résiste dans le temps et qu'il réussit à aller plus vite que Marion Maréchal, il peut garder le leadership, il peut même en faire un vrai parti d'opposition. Après, il y a un problème d'équation personnelle. Est-ce que c'est le meilleur homme pour le job? Je ne sais pas.
Alors, Charlotte Dornelas, Virginie Calmels a soutenu Alain Juppé pendant la primaire, ensuite François Fillon, puis Laurent Wauquiez, c'est la première adjointe à la mairie de Bordeaux. Et Alain Juppé, alors c'est le canard enchaîné qui a dit ça, aurait déclaré une gentillesse à son propos. Ça lui rapporte, elle y va, elle n'a pas de principe. Bon, c'est assez violent, assez dur.
Alors, mais il la connaît mieux que moi.
Voilà, exactement, mais est-ce que finalement cet alliage a été fait pour durer véritablement ?
Alors, il a duré pendant très longtemps. C'est pas nouveau qu'à droite, en tout cas au sein du parti, on ait l'impression que le rassemblement ne peut se faire qu'avec le centre. Là, évidemment, il y a une nouvelle donne depuis l'année dernière, ça n'aura échappé à personne. Emmanuel Macron a rassemblé le centre, à gauche et à droite. Et vous le dites, il y a certains électeurs qui restaient à droite parce que pour la forme ou parce qu'il y avait l'éthos de droite, comme on dit maintenant, éthos qu'a repris Emmanuel Macron et qui sont surtout des libéraux. Et Virginie Calmels ne cessait de répéter qu'elle était libérale et conservatrice, mais qu'il fallait pas oublier l'un ou l'autre. Elle reprochait notamment à Wauquiez de pas être assez libéral, Macron l'étant évidemment plus. Et sur l'aspect conservateur, c'est les conservateurs du centre, on ne sait pas très bien. Alors elle s'est excitée sur le
tract du centre.
Elle se revendique plutôt être du centre que de droite. Et elle nous dit, par contre, je suis conservatrice. Et elle s'énerve sur un tract pour que la France reste la France. Ça fait des étincelles, alors que, a priori, les électeurs de droite ne sont pas choqués par ce slogan. Et par ailleurs, En permanence, et les gens du centre au sein de la droite accusent Wauquiez d'aller chasser sur les terres du Front National, comme on dit. En fait, il revient sur des fondamentaux qui sont ceux de la droite depuis très longtemps, à savoir la question de l'immigration, en tout cas ceux des électeurs de droite. Mmh. Parce que si, effectivement, il y a toujours eu une frontière infranchissable pour les électeurs sont passés de la droite au Front National régulièrement, selon les élections. Et on l'avait vu notamment avec Sarkozy, ils l'ont même fait dans l'autre sens parfois. Ouais. Donc c'est pas quelque chose qui fait peur aux électeurs. Donc Wauquiez a choisi sa ligne, et en plus, bon, évidemment, le déballage public des différents, qui est un secret pour personne.
Non, bien sûr, mais ça fait deux semaines que c'est alimenté, parce que Virginie Calmet s'est étendue notamment sur ce tract, Mike Lounès, pour vous. C'est une clarification aussi, peut-être, de la ligne là, de Laurent Wauquiez.
Si je rebondis sur ce qui vient d'être dit, en fait, ça dépend où on place le centre de gravité de la droite. Ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron, en fait, a préempté beaucoup plus que simplement les centristes, mais tous les courants chrétiens-démocrates, libéraux, jupéiste, pro-européen, donc ça va très très loin à droite, et jusqu'à longtemps à droite il y avait un cordon sanitaire vis-à-vis du Front National qui fait que le centre de gravité de la droite n'est pas là où Wauquiez semble le situer. Là il le situe en actant que, en fait, sur sa gauche, eh ben Macron a préempté. Et il faut mettre ça en résonance avec un autre fait très important qui s'est déroulé dans la présidentielle, c'est le fait qu'une partie de l'électorat Front National est prêt à voter nationaliste, mais pas au point de sortir de l'euro. Et donc, Marine Le Pen ayant trouvé ce plafond de verre de l'euro, c'est-à-dire des gens qui sont très conservateurs, qui vont très à droite, mais qui franchiront pas ce Rubicon, Wauquiez, lui, y voit un espace, mais qui est celui du Front National, avec une déportation de la droite. Mais moi, je sais plus ce qu'est la droite, en fait, avec Macron. Donc, c'est compliqué de savoir où est le centre de gravité, de quoi on parle, en réalité.
Stéphane Vernet, c'est vraiment deux visions de l'Europe qui les ont séparées? Virginie Calmels, Laurent Wauquiez?
Alors, ce qu'on dit surtout, c'est que c'est une ambition contrariée pour Virginie Calmels, parce que elle était pressentie comme tête de liste pour les européennes, et puis finalement ça le fait pas. Elle aurait pas eu la tête de liste pour les européennes. Donc vous avez une partie des républicains aujourd'hui qui dit bon bah c'est du dépit en fait si elle crache dans la soupe à un moment publiquement, parce que c'est ça qui lui reprochait.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Des dissensions internes.
Okay. Voilà,
mais
ça.
Voilà, alors oui, c'est la métaphore de la Coupe du Monde de foot et tout ça.
On
marque pas de but contre son camp. C'est inadmissible, on n'a rien contre Virginie Calmes, mais il fallait que ça cesse. Voilà, c'est ce qu'on nous a servi ce matin. Mais sur, oui, je pense qu'il y a plusieurs visions possibles de l'Europe. En tout cas, celle de Laurent Wauquiez, elle est très claire depuis le départ. Il s'est repositionné très à droite par rapport au FN dans l'espace qui lui reste face à Macron, en fait, qui est en train de préempter le discours européen. Il a besoin d'exister par rapport à ça. Ça correspond pas forcément au vu ou au positionnement naturel de Virginie Calmes, si on considère qu'effectivement elle était jupéiste, etc. Mais moi, je pense que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est pas un problème de positionnement par rapport à une ligne sur l'Europe. C'est d'abord un problème d'intérêt contrarié
et
d'incompatibilité.
Oui, la phrase d'Alain Juppé serait pas fausse alors, finalement. On va y revenir dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Nous rend-elle plus humains? L'un des sujets de l'édition 2018 du bac de philo, ici pour les sections littéraires. C'était ce matin la première épreuve pour près de 558 000 candidats. Le ministère de l'Éducation nationale l'assure. Malgré la grève à la SNCF, il n'y a eu ni problème ni gros retard signalé. Pour demain, la circulation sera quasi normale pour les TGV, TER, Transilien et Intercités, selon cette fois la direction de la SNCF. La moitié des 630 migrants de l'Aquarius veulent demander l'asile en France. Le constat des autorités espagnoles après l'arrivée du bateau ce week-end dans le port de Valence. La France avait offert d'accueillir une partie de l'aide à ses rescapés. Une équipe de l'OFPRA se rendra prochainement en Espagne. Mesures de simplification, réforme de l'épargne salariale et ouverture aux privatisations. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son projet de loi Pacte sur la croissance des entreprises. 8 mois de gestation, 79 articles. Ce texte est destiné à rendre l'économie française plus compétitive. Et puis 3-0 et la Belgique corrige le Panama au Mondial de Russie. Avant cela, se sont imposés 1-0 les Suédois face à la Corée du Sud. Avant la confrontation, c'est maintenant depuis 10 minutes, de la Tunisie face à l'Angleterre.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info ont parlé à l'instant de métaphores footballistiques et ça tombe bien puisqu'on va partir à Volgograd rejoindre Franck Ballonger pour la Coupe du Monde Tunisie-Angleterre. Il y a déjà un but, hein, Franck.
Oui, dès la 11e minute, un joli but d'ailleurs, un corner pour les Anglais, ballon dans le paquet, une tête repoussée par Mouez Hassen, le gardien tunisien, mais repoussée sur Harry Kane qui marque de la tête. Le capitaine anglais, le buteur de Tottenham Hotspur, permet donc aux Three Lions d'ouvrir la marque 1-0 pour l'Angleterre face à la Tunisie après 11 minutes de jeu.
Merci beaucoup Franck Ballonger, on vous retrouvera bien sûr au cours de l'émission s'il y a un autre but. On parle du limogeage de Virginie Calmels et en ce moment elle est invitée aux 20h de TF1. Et alors, c'est ce que vous disiez, Charlotte Dornelas. Alors, Virginie Calmels est très peinée. Hein, voilà, bon, pour cette famille de la droite, en train d'éclater sous nos yeux, elle l'explique avec le départ de Xavier Bertrand en décembre dernier, avec Valérie Pécresse, qui a dû monter son propre mouvement. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle mon limogeage, je suis soulagée tout de même à titre personnel. Voilà ce qu'elle a déclaré Virginie Calmels. Donc, c'est assez bizarre parce que après elle dit moi, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy qui appelle au rassemblement, etc. On ne sait plus trop finalement où elle en est là. Hein.
Bah, elle, on ne sait plus trop, mais c'est quand même assez intéressant parce que vous avez parlé de cordon sanitaire. Ce cordon sanitaire, il a été créé par François Mitterrand, il a été créé par la gauche pour évidemment embêter.
C'est l'expression de droite.
Non, mais le mot cordon sanitaire, mais le repoussoir qui a été le Front National dans la vie politique a été créé par François Mitterrand et pour cause, pour faire perdre la droite.
C'était un choix de la droite. François Mitterrand ne dirigeait pas la droite, c'est la droite qui, après la défaite de Chirac en 88, met en place cette politique, l'assume.
Je vous parle de la place qu'a pris le Front National et de la diabolisation politique du Front National au départ. C'était évidemment un souhait de François Mitterrand, c'est contesté par personne en l'occurrence. Et aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai, bien sûr, ils l'ont tous reconnu et Jean-Marie Le Pen lui-même.
Non, mais attendez, la droite était souveraine, donc elle a décidé cette politique parce qu'elle a tiré les conséquences de sa défaite en 88.
Alors Mitterrand les battus
et il soit responsable de quelque chose.
Mais c'est leur choix.
Pardon. On va juste finir pour revenir à 2018.
Et c'est systématiquement les gens venus de la gauche ou du centre au sein de la droite qui expliquent qu'il y a une droitisation insupportable ou alors que le parti est en train d'exploser. En réalité, ce que la ligne, en tout cas, qui a l'air de porter Laurent Wauquiez, c'est qu'il ne veut plus rassembler des élus, puisque les élus au centre, il y en a, mais les électeurs et les électeurs aujourd'hui à droite sont à droite, c'est clair en fait.
Il y en a un paquet chez Macron, il y en a un paquet
chez Macron, mais donc Wauquiez ne va pas les récupérer.
Attendez, dans ce cas-là, qu'est-ce que la droite aujourd'hui?
Mais Macron, qu'est-ce que la droite tout court, en fait? C'est ça la question.
Juste une chose, il est vrai que Laurent Wauquiez a gagné les primaires de la droite.
De LR.
Bien sûr.
Mais c'est pas la même chose.
Bah, c'est le parti majoritaire.
Pas majoritaire de quoi?
À l'Assemblée nationale, c'est le premier parti d'opposition.
Et par ailleurs, dans les sondages, c'est le Front National. Donc a priori, il est sur le bon terrain.
Alors, une chose, Philippe Bonchevrolet, Nicolas Sarkozy aujourd'hui s'est exprimé. Il a déclaré que les Républicains devaient se rassembler. Bon, c'est Nicolas Sarkozy. Il est encore possible d'ailleurs ce rassemblement?
Oui, il est possible le rassemblement. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un chef. La droite, elle a le principe du chef. C'est un peu galvaudé, mais c'est quand même assez vrai. Et pour l'instant, le problème, c'est que Wauquiez n'incarne pas ce chef. Il a effectivement un problème, comme le dit Calmels, qui est que il y a plein de gens qui gravitent autour et qui se sont pas décidés, en fait, à aller. C'est un peu César qui hésite à franchir le Rubicon. Ouais. Donc Bertrand, il campe avec ses troupes à la frontière. Et puis on a Pécresse qui fait la même chose. Bertrand a un énorme potentiel. Hein. Il pourrait peser, il pourrait devenir un leader. Donc c'est pas des petites menaces pour Wauquiez. Personne ne croit vraiment au leadership de Wauquiez, donc il y a un souci, voilà. Après, Sarkozy tient au statu quo pour des raisons qui lui appartiennent. La stratégie de Sarkozy, je ne la décrypte plus depuis un moment.
J'ai l'impression.
Mais il tient à ce que le parti reste dans l'état où il est. Il a fait ça avec Fillon, il fait ça avec Wauquiez. Bon.
Malik Lounès.
Moi, je pense que Wauquiez fait une erreur qui est de confondre droite populaire et droite nationaliste. Ce n'est pas la même chose. Bon. Quelque part, la droite française vit la même fracture que la droite allemande et que toutes les droites en Europe, entre une composante qui est nationaliste, conservatrice, qui est pour l'Europe des nations, qui n'est pas très fédéraliste, et une autre composante de droite qui est beaucoup plus libérale, beaucoup plus sociétale et sociale, qui sur des questions comme le mariage gay ou d'autres, est quand même, si je puis me permettre l'expression, un peu plus détendue du slip. Et donc il confond ça, et à partir de là, il a un problème de positionnement. Moi, je trouve qu'il y a une logique politique, de son point de vue, à courir derrière le Front National, pour la raison que j'ai exprimée tout à l'heure, qui est la question de l'euro. Parce que, en fait, le Front National lui-même cherche à incarner ce qu'on voit ailleurs, qui n'existe pas encore vraiment en France, c'est-à-dire un grand pôle de droite conservateur, nationaliste, un petit peu réactionnaire, mais pas trop, et xénophobe, juste ce qu'il faut. Bon, un peu comme la CDU allemande. Bon. Et donc ça se cherche. Ça pourrait se faire entre un pôle Wauquiez et un pôle FN, et c'est la seule logique qu'il pourrait y avoir, mais dans ce cas-là, Il y a l'autre composante, et c'est pas la droite, c'est une partie de la droite, peut-être la moitié, mais pas la droite.
Stéphane Vermey, est-ce que ça montre une image toujours plus clivante de Laurent Wauquiez? On voit qu'il y a des sondages au niveau... Laurent Wauquiez, c'est pas l'homme politique le plus populaire de France aujourd'hui.
Et pour
beaucoup de Français, il est clivant. Est-ce que ça montre une image, voilà, ou alors c'est une clarification, tout simplement? Il a sa ligne et il écarte tous ceux qui ne sont pas d'accord.
Mais je pense qu'il n'a pas le choix. Il a posé un acte d'autorité hier dimanche.
Ouais,
ce matin, les porte-paroles des Républicains disaient « Ah non, c'est un acte d'autorité, c'est pas de l'autoritarisme. » Donc, vous apprécierez la nuance. Mais effectivement, je pense qu'il est coincé. Je pense qu'il est coincé aussi par rapport à sa propre image. C'est-à-dire que le point de bascule... vous parliez de rassemblement tout à l'heure. Ouais. Moi, je pense que beaucoup attendaient qu'après son élection triomphante à la tête des Républicains, il fasse ce qu'on fait habituellement dans ce pays à chaque élection. C'est-à-dire que j'impose une ligne très marquée pour gagner. Et puis, une fois que je suis en place, j'élargis, je rassemble. Donc, le ticket Calmes-Wauquiez, il avait tout son sens à ce moment-là, en fait. Et sauf que c'est pas ce qu'il a fait.
Est-ce qu'il vise la présidentielle?
Alors, il vise la présidentielle, il est sur le temps long, et je pense qu'il fait un pari. C'est-à-dire qu'à un moment, on a dit, voilà, il cherche à se rapprocher du Front National. Non, il a toujours dit qu'il voulait pas se rapprocher du Front National. En fait, je pense que c'est ce que vous évoquiez tous les deux tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce de croyance ou de conviction à droite que, en fait, le Front National a été créé de toutes pièces pour faire perdre la droite, et que c'est comme une espèce de caillou dans la chaussure de la droite ou des droites, et que le but du jeu pour Laurent Wauquiez dans ce positionnement très fort, c'était pas de se rapprocher du Front National ou de fusionner avec, mais c'était de le faire mourir, le siphonner, oui, en fait, le faire disparaître. Le risque, c'est que aujourd'hui, dans le jeu, à l'arrivée, c'est pour l'instant, c'est plutôt le Front National qui tient la corde,
et surtout
siphonner ce qui reste chez LR.
Et surtout, Laurent Wauquiez est vraiment tout seul, parce que c'est son numéro 2. Je pense qu'il y a peu de Français qui le connaissent. Il s'appelle Jean Iolanti.
Alors, il rassemble, c'est un spécialiste
de la fin de vie. Oui,
exactement, c'est ça.
Oui.
Mais c'est ce que vous avez titré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il rassemble par le vide.
Voilà.
Et c'est tous derrière moi. Et ceux qui veulent pas être avec moi,
je pense que la stratégie, c'est de rassembler encore une fois les électeurs pas au sein de son parti. Il veut clarifier. Il y a beaucoup d'électeurs qui ont effectivement reproché à la droite. Et là, je parle des électeurs de droite. Donc, évidemment, vous allez pas être d'accord avec eux. Ça, c'est pas un scoop. Mais en l'occurrence, les électeurs de droite en avaient marre, effectivement, des leçons de morale en permanence. On a entendu Juppé commenter, il avait quand même perdu une élection. Ensuite, on a entendu Maëlle de Calon critiquer Wauquiez, il avait aussi perdu une élection. Ensuite, Virginie Calmels. Mais ce que vous avez dit, effectivement, Laurent Wauquiez, c'est quoi la stratégie de la droite à chaque fois? Siphonner les voix du Front National, surtout quand le Front National est très haut. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est qu'il arrive après Nicolas Sarkozy, qui avait pris 7 points en 2007 au Front National, en parlant d'identité nationale, en parlant du Karcher, et il n'a pas été sur cette ligne-là une fois au pouvoir. Donc, Laurent Wauquiez porte, lui, le poids de l'insincérité de Nicolas Sarkozy quand il était au pouvoir, et c'est ça le boulet qu'il a aujourd'hui. Le problème, c'est pas la ligne, c'est lui, Laurent Wauquiez, peut-être en partie, mais aussi l'héritage de la droite une fois qu'elle a été au pouvoir.
Je crois
qu'il y a une cohérence à ce qu'il fait. Il y a une décomposition, recomposition à droite qui met en jeu le FN, qui met en jeu du pont gagnant, et c'est le pari peut gagnant pour Wauquiez trouver son espace.
On va continuer à parler de la droite, mais de l'autre côté du Rhin cette fois-ci, parce que c'est un gros souci en ce moment, une belle zone de turbulence que traverse Angela Merkel. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Et l'intersyndicale d'Air France l'annonce à l'instant, la suspension de la grève prévue du 23 au 26 juin. Tous les syndicats, sauf les pilotes du SPAF, disent attendre la nomination du nouveau PDG de la compagnie qui doit être désigné d'ici un mois. Les salariés d'Air France réclament depuis plusieurs semaines des hausses de salaire. Le nombre des morts sur la route en métropole baisse de 8,4% en mai dernier, 272, ce qui représente 25 vies épargnées selon les chiffres de la sécurité routière. Des chiffres qui confirment la tendance à la baisse de la mortalité routière amorcée en 2017 après 3 années de hausse. Angela Merkel rejette l'ultimatum de son ministre de l'Intérieur sur la question des migrants. La chancelière allemande était poussée par la CSU à trouver en 2 semaines une solution européenne au défi migratoire, faute de quoi l'Allemagne fermerait ses frontières. Angela Merkel accepte en revanche un compromis avant le sommet européen à la fin du mois. Les États-Unis possèdent la moitié des armes à feu civiles au monde, 120 armes à feu pour 100 habitants. Le constat d'une étude publiée aujourd'hui par le projet de recherche Small Arms Survey depuis Genève. En 11 ans, ce nombre est passé de 650 millions à 857 millions d'armes. Le musée du Louvre, vu plus de 10 millions de fois en 24 heures sur Internet. Le Louvre, théâtre du nouveau clip des chanteurs américains Beyoncé et Jay-Z. 10 millions, c'est plus que le nombre annuel de visiteurs du musée. Les internautes peuvent voir, entre autres et en musique, le radeau de la Méduse
Vénus ou encore le sacre de Napoléon.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, quand vous avez un accident, même léger, que vous vous tordez de douleur, vous avez envie de frapper une personne. Vous savez, celle qui vous dit, mais au fait, t'as mal ou pas? Donald Trump, c'est un peu ce genre d'homme. Alors que tant que la coalition d'Angela Merkel avec la CSU, son ministre de l'Intérieur souhaiterait fermer les frontières allemandes aux migrants, ce que refuse la chancelière, eh bien, Donald Trump a gentiment tweeté ce matin, je cite, le peuple allemand est en train de se retourner contre ses dirigeants, alors que l'immigration secoue la coalition déjà fragile de Berlin, la criminalité en Allemagne est très en hausse, grosse erreur dans toute l'Europe que de laisser entrer des millions de personnes qui ont si fortement et violemment changé leur culture. Voilà, ça c'est un message comportant de Donald Trump comportant son lot de fausses informations, puisque la criminalité n'est pas en hausse en Allemagne. Angela Merkel a refusé l'ultimatum demandé par son ministre de l'Intérieur. Elle souhaiterait mettre en avant ses propositions qu'elle fera demain avec Emmanuel Macron sur l'euro et donc la crise migratoire. Mais étrangement, ça ne séduit pas son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer.
Ich sage auch hier bei diesem Punkt nochmal.
Si le sommet européen de fin juin ou des accords bilatéraux réussissent à atteindre notre objectif, qui est le renvoi des migrants dès l'arrivée à la frontière, nous serions très contents et nous souhaitons bonne chance à la chancelière. Mais nous nous en tenons à notre position dans le cas où cela ne réussirait pas, qu'il soit possible de refouler immédiatement les migrants à la frontière.
Ministre de l'Intérieur allemand Horst Seehofer, Stéphane Vernet, les tweets là de Donald Trump visant l'Allemagne, est-ce que c'est vraiment sur ce sujet ou c'est par rapport aux taxes douanières où on a vu des Allemands très très offensifs contre Washington?
Bon, on sait pas, ouais. On sait jamais ce qui se passe dans la tête de Donald Trump.
Mais est-ce qu'il y a un peu de ça aussi, mais comme par hasard, c'est que saisir ça... de sujet.
Non, mais oui, ce qui est sûr, c'est que ça aide pas. Alors il y a peut-être des comptes à régler par rapport au dernier voilà, G7, etc. Ça. Bon voilà, il y a peut-être des intentions cachées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aide pas. Est-ce qu'il est en train de se passer en Allemagne est très problématique, parce que je pense que c'est emblématique ou c'est symptomatique de ce qui peut arriver à toute l'Europe dans un avenir assez proche. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que c'est un déchirement entre la CDU et la CSU. Et la CSU, en fait, c'est la partie bavaroise.
Voilà, c'est la droite bavaroise.
Voilà. La CDU existe dans toute l'Allemagne, sauf en Bavière. Et en Bavière, c'est la CSU. Et de tout temps, en fait, ce sont deux partis frères. Les Allemands appellent ça die Union. Enfin, ouais. Voilà. Donc, et c'est à la base de la coalition. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de se déchirer. Sur quoi? Sur ce qui s'est passé en 2015-2016, c'est-à-dire l'arrivée massive de migrants en Allemagne. Elle est passée par la Bavière. La Bavière, c'est le sud de l'Allemagne. Donc, c'est tous les migrants qui venaient de Hongrie, qui transitaient par l'Autriche. Ça a eu un impact qui s'est traduit l'année dernière au niveau des élections, au niveau des Länder, par un recul très fort de la CSU en Bavière. Ils ont fait le plus mauvais score de toute leur histoire.
Et en face, l'AFD,
Alternative für Deutschland. Voilà. Ouais. Et donc, il y a des élections à nouveau en Bavière à la rentrée en octobre prochain. Ils ont la trouille, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de monter au créneau d'un point de vue politique, parce que je pense qu'ils ont peur de perdre les élections, d'où ce discours. Mais vous allez voir qu'il y a un tas d'autres pays dans lesquels on va avoir type de problème interne et le même genre de discours. Vous verrez que les Européennes l'année prochaine, tout va se passer autour des migrations.
On va parler de ça dans un instant, mais Philippe Moreau-Chevrolet, on voit en effet depuis la semaine dernière que... De nouveau, bien sûr, on parle des migrants, mais que de nouveau, il y a de nouveau des prises de position. Là, on a vu le ministre de l'Intérieur italien, autrichien et donc allemand former cette taxe, je reprends le terme.
C'est leur terme, oui.
C'est ça, le terme. Le terme est assez violent. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une fracture officielle, en fait, tout simplement, sur cet accueil de migrants entre pays européens.
Oui, il n'y a pas de politique européenne. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de concertation, évidemment, ça se fracture dans chaque pays individuellement, parce qu'il y a le même front dans chaque pays, comme vous le disiez. Donc, c'est logique. On n'a pas eu le courage de mettre en place une politique migratoire européenne alors qu'il y a une crise majeure aux portes. Donc ça produit des effets délétères dans tous les pays. Ça peut être plus fort contre l'Europe. Ça peut mettre à terre la construction européenne à terme. Parce que ça peut envoyer au Parlement européen une coalition anti-européenne. C'est mortifère. On n'a pas osé défendre nos valeurs. La réalité, c'est ça. Il y a une femme qui le fait, c'est Merkel, qui a le courage politique d'accueillir des migrants chez elle en disant « ce sont des êtres humains, il faut qu'on fasse quelque chose ». La réalité, c'est qu'il aurait peut-être fallu qu'il y ait un débat au sein de l'Europe entre eux pour arrêter une politique migratoire et dire clairement « non ». Alors, de mon point de vue, on n'est pas humaniste et on va laisser les migrants aux portes. Ou alors, oui, on les accueille. Il aurait fallu une décision unanime, au moins majoritaire. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait un débat avec des vrais montés au créneau. Pourquoi on n'a pas eu de débat là-dessus? Pourquoi c'est le pape qui nous parle de l'immigration en des termes humanistes et Merkel? Pourquoi il n'y a pas de débat, quoi?
Malik Younes.
Ce qui est terrible dans ce qui vient de se passer avec cette histoire d'axe, donc Allemagne, Italie, Autriche, c'est que c'est une vieille tradition, en fait, de l'extrême droite européenne, sauf que maintenant ils sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes qui faisaient ça d'une façon partisane auparavant, qui maintenant le font avec le levier de l'État. Mais ça ne s'arrête pas à ces trois pays, parce que vous pouvez ajouter sur cet axe les Hongrois, les Polonais, les Tchèques et les Slovaques. Vous avez commencé par Trump qui envoie un message.
Fait, bon.
Mais tout ça, politiquement, c'est pareil. Peut-être que dans le tweet de Trump, il y a des trucs circonstanciés ou de conjoncturels sur le G7, mais c'est surtout une politique de la droite américaine dure, trumpienne, qui est en résonance avec Conte en Italie, avec le premier chancelier autrichien. Tout ça, c'est la même sphère politique et qui sont en train d'emmener tout le monde Et on retrouve la question française. On parlait des Européens. Si vous avez un regroupement Wauquiez, Front National, Dupont-Aignan, ils seront en correspondance avec le ministre de l'Intérieur italien, avec l'Allemand, etc. etc.
Alors,
juste un dernier mot. Ce qui est intéressant, c'est que le ministre allemand dit si l'objectif est atteint, qui est de refouler ces gens-là. Mais ce n'est pas ça l'objectif de Merkel.
Ah ben non.
Ce n'est pas de refouler, c'est d'accueillir une partie de ces gens-là. Donc on comprend bien qu'il n'y aura pas d'accord. Quand il commence comme ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accord avec Merkel.
On va continuer à en parler. Dans un instant, on parlera également des 1 an, voilà, des députés de La République En Marche. Mais qui sont-ils? Où sont-ils? En avez-vous dans votre circonscription? Voilà, n'hésitez pas. Voilà, on revient dans quelques minutes pour les informer de France Info.
Ok, en fait, ils vont cacher.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. Au sommaire du numéro d'été de Papier, où vivons-nous? Un grand dossier sur les paysages. Paysages de l'enfance, rêvés ou réels, paysages du quotidien, ils nous racontent et nous façonnent. À lire également, un entretien avec le rappeur Sofiane, une réflexion sur nos amis les chiens et les confidences d'Isabelle Huppert. Papier, une revue disponible en kiosque et en librairie. France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Plus de soleil demain et des températures en hausse de la Bretagne et de l'intérieur des Pays de la Loire vers la Normandie, l'Île-de-France, le nord de la Seine. Le réveil sera gris. Du sud-ouest au nord-est, pas mal de nuages. Le soleil sera bien présent du Limousin vers la Méditerranée, Rhône-Alpes, le Jura. Il fera 13 à 17 degrés jusqu'à 22 près de la Méditerranée. L'après-midi, le soleil gagnera du terrain jusqu'aux Charentes, au centre, à l'Alsace. Une averse sera possible sur la Corse, pourquoi pas un orage du côté des Alpes. Entre la Vendée, la région parisienne et le nord de la Lorraine, de bons moments de soleil. En revanche, ça restera bien nuageux de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Il fera 18 à 23 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés sur la plupart des régions, avec 26 à Paris, Nancy, Nantes, 29 à Lyon, Limoges et Toulouse. Et on ira jusqu'à 27 à 33 degrés autour de la Méditerranée, 33 à Marseille.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Le mondial de football en Russie avec les 3 matchs du jour. La Suède a battu la Corée du Sud 1-0. Victoire, large victoire de la Belgique sur le Panama 3-0. Et puis on joue la première mi-temps de ce dernier match de la journée. Tunisie-Angleterre, les Anglais qui dominent assez logiquement, hein, Franck Ballanger.
Et assez largement même, on peut le dire, hein, Emmanuel. 30 minutes de jeu et 1-0 pour les Three Lions. Un but réussi dès la 11e par Harry Kane, le buteur de Tottenham, capitaine de cette équipe d'Angleterre. Un but de la tête, il a battu Moez Hassen qui juste derrière est sorti, hein, le gardien de Châteauroux en France, blessé à l'épaule et remplacé par Farouk Ben Mustapha. Depuis, eh bien, les Marocains vont un tout petit peu mieux. Ils sortent un petit peu la tête de l'eau, mais ce sont toujours les Anglais qui mènent et qui domine 1-0 pour les Three Lions.
Donc les Anglais face aux Tunisiens. Merci Franck Ballanger depuis la Russie. Les syndicats d'Air France lèvent leur grève prévue du 23 au 26 juin, ce week-end donc. Seul le deuxième syndicat de pilotes, le SPAF, maintient son préavis dans l'attente de la nomination d'un nouveau PDG de la compagnie au plus tard mi-juillet. Les syndicats de pilotes estiment qu'il sera plus efficace d'attendre le bon interlocuteur, écrivent-ils dans un communiqué. Le Brexit et les Lords anglais qui infligent un nouveau camouflet au gouvernement britannique. Ils adoptent à une large majorité voter un amendement qui offre au Parlement un droit de veto sur l'accord final de Brexit, en cours de négociation toujours entre Londres et Bruxelles. C'est une première dans le scandale tentaculaire du Dieselgate en Allemagne. Cette affaire des moteurs diesel truqués, le patron d'Audi, filiale de Volkswagen, est en prison ce soir. Aux manettes du constructeur bavarois depuis 11 ans, il avait été mis en cause fin mai pour fraude et complicité d'émission de faux certificats par le parquet de Munich. Trois morts dont une fillette de 9 ans dans un puissant séisme, ça s'est passé au Japon. Le tremblement de terre a touché la région d'Osaka. La secousse a provoqué d'importantes coupures de courant. Le trafic ferroviaire a été suspendu en pleine heure de pointe. Rien d'anormal, en tout cas dans les centrales de la région, selon l'autorité de régulation nucléaire. Et puis un homme ivre a tenté d'agresser des policiers municipaux au Cutter sans succès. Ça s'est passé à Nice la nuit dernière. L'homme avait été repéré sur des caméras de vidéosurveillance en train de prendre des photos de la mairie de Nice. En arrivant sur place, les policiers se sont aperçus qu'il écoutait des versants du courant et qu'il était ivre. Il a été placé en garde à vue. Et puis un couvre-chef a pris d'or. Il avait été ramassé sur le champ de bataille de Waterloo. Un bicorne attribué à Napoléon s'est vendu 350 000 euros à un collectionneur lors d'une vente aux enchères à Lyon aujourd'hui. Il faut dire qu'en 15 ans de règne, Napoléon aurait usé environ 120 bicornes. Il est 20h33 sur France Info, les informés suite et fin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est en apnée qu'ils ont décidé d'affronter le grand bleu, l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le communicant Philippe Moreau-Chevrolet, également Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Malik Lounès du Parti Socialiste et Stéphane Vernet de Ouest France. Avant de reprendre notre débat, un mot sur la phrase du jour. C'était, peut-être vous l'avez vu, c'est lors des commémorations du 18 juin, Emmanuel Macron est allé saluer la foule. Et après avoir remis en place un ado qu'il appelait Manu, et au lieu de Monsieur le Président, Emmanuel Macron lui a donné, est revenu vers lui et lui a donné un conseil pour l'avenir. On l'écoute, Emmanuel Macron.
Non, le jour où tu veux faire la révolution, t'apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord ? Et à ce moment-là, tu iras donner le son.
Voilà, ça c'est donc Emmanuel Macron. Et bizarrement, cette phrase-là nous a fait penser à ça.
C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Voilà, OSS 117, et c'est vrai, Philippe Bonchot, ça fait un peu penser à ça, non ?
Ça fait penser à ça. Alors, certainement pas dans l'esprit de Macron. Macron, lui, il espérait faire du Sarkozy, ou alors du Bayrou 2007, vous savez, la gifle au gamin qui lui faisait les poches. Alors, ça va poursuivre Macron, probablement, parce que c'est...
Mais ça plaît, non, aussi, le côté autorité.
Oui, ça plaît beaucoup. Alors, ça plaît beaucoup à l'électorat de droite qui se dit, ah, il est bien, ce type. Alors, non seulement il est sympa, non seulement il s'en fout de l'âge.
J'espère que le respect n'est pas juste
son partenaire, mais en plus, il a de l'autorité et remet les gamins en ordre. Il faut pas oublier une chose, il a des élections préparées Macron, et ceux qui votent pour Macron, c'est pas du tout la jeunesse, il en a pas la majorité, c'est les vieux. C'est les vieux qui votent pour Macron. Vraiment, c'est le cœur, c'est les seigneurs.
D'accord, et donc ce genre de phrase peut plaire.
Ah oui, je pense que c'est
un fond, bien sûr.
Après, c'est un peu usé quand même.
En tout cas, on aura fait juste ce tour, on va vite aller nous à Volgograd pour la Coupe du Monde en Russie. Franck Ballanger, donc égalisation.
Oui, égalisation de la Tunisie, un but de Ben Youssef réussi sur pénalty. Pour une faute de Kyle Walker, c'est Ferjani Sassi qui a transformé ce pénalty. Un but partout, donc après maintenant 35 minutes de jeu ici à Volgograd.
Merci Franck Ballanger. Alors déjà vendredi dernier, on avait été très surpris par ce match Espagne-Portugal. On appelait très souvent Franck Ballanger qui était à Sochi, donc je sais pas. Alors, en tout cas, ça a des informés porte-bonheur à cette Coupe du Monde. Nous, on parle du sujet en ce moment qui anime bien sûr tous les Européens. C'est celui des migrants en ce moment en Allemagne. La coalition entre les deux droites est en train de trembler. Et une chose tout de même, Charlotte Dornelas, on voit en ce moment, il y a un homme aussi qui n'est pas très bien avec ce sujet, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui, ce qu'il souhaitait, c'était un petit peu sur l'Europe de faire la même chose qu'il avait fait en France, c'est-à-dire un peu renouveler les choses. Et on voit que ce sujet est en train véritablement de le freiner dans son élan. Non ?
Bien sûr, et il avait dit « je serai l'homme de l'Europe, je vais la reconstruire, tout le monde va me suivre ». Bon, alors personne ne l'a suivi sur rien. Et là, sur les migrants, je ne vois pas comment ça pourrait bien se passer, parce que vous l'avez dit, le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence allemand, parle effectivement de la possibilité d'un accord fait par Angela Merkel. Quoi qu'il en pense, sur le fond, on voit bien qu'aujourd'hui, vu la séquence qu'il y a sur l'immigration partout en Europe, je ne vois pas quel accord pourrait sortir de ça. Mmh. Emmanuel Macron continue à dire il faut que la réponse à la question de l'immigration soit européenne. Elle ne le sera pas, puisque toutes les décisions qui sont prises à l'échelle nationale, et en l'occurrence, elles sont pas exactement sur la ligne défendue, en tout cas officiellement, par Emmanuel Macron. Mais je voudrais juste revenir sur une chose. Vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas eu le courage de défendre nos valeurs. Alors, Angela Merkel l'aurait fait apparemment, mais moi je ne sais pas ce que c'est les valeurs de l'Europe. En fait, il n'y a pas les gentils qui veulent accueillir tout le monde.
C'est ça le problème, vous avez raison.
Écoutez-moi, jusqu'au bout. On ne peut pas dire, il y a les gentils d'un côté qui veulent accueillir tout le monde et les méchants qui disent qu'il faut peut-être être un tout petit peu prudent dans l'accueil. Les valeurs de l'Europe, si c'est l'humanisme, j'ai l'impression aussi que les Européens parlent en permanence des valeurs de la démocratie. Or, là, c'est vous qui l'avez dit, tous ces gens-là ont été élus quand même. Il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours en Allemagne, 90% des Allemands souhaitent qu'il y ait plus d'expulsions. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'immigration, c'est pas tout rose, notamment en Allemagne. Ils ont accueilli 1 million de gens. Je sais pas si vous vous souvenez en 2017 de ces 30 000 déboutés au droit d'asile qui avaient disparu. Le gouvernement ne savait plus où ils étaient. Ça prouve bien que la crise est mal gérée. Il y a eu évidemment les viols de Cologne. Il y a aujourd'hui...
Mais attendez, c'est pas forcément les viols de Cologne qui ont à voir avec l'accueil
d'un
million de...
Je vous dis, il y a 1 million. Oui. De personnes qui ont été accueillies en Allemagne, ils n'ont pas su le gérer et il y a aujourd'hui des faits divers qui sont sordides et qui sont quotidiens.
Contrairement à ce que dit Donald Trump, il n'y a pas une hausse de la criminalité depuis l'accueil.
Alors, il n'y a pas une, je ne sais pas s'il y a une hausse de la criminalité, si vous le dites, je vous crois. En revanche, le ministère de l'Intérieur allemand a sorti en 2016 les chiffres de la criminalité. Donc, c'est les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur allemand. Le taux de criminalité est 7 fois supérieur chez les réfugiés. Donc chez les clandestins en l'occurrence, parce qu'ils sont déboutés du droit d'asile parfois, que chez les Allemands. C'est des chiffres qui viennent du ministère de l'Intérieur.
Et ça, au bout d'un moment, c'est les pauvres, aussi sur certains types de crimes qui
c'est
sont
aussi forcément quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pas simplement les gentils qui veulent accueillir les gens. Il y a aussi des Européens aujourd'hui qui disent on en fait trop, on en a trop.
Il devrait y avoir un débat sur les valeurs de l'Europe. Mais moi, sur les valeurs de l'Europe, personnellement, quand un bateau se promène avec des femmes enceintes et sans gosses en bas âge. Je ne me pose pas la question de savoir si les vents sont contraires ou si le prochain port, je peux m'en débarrasser
là,
en Espagne ou ailleurs.
Je les accueille.
C'est de l'affectif, oui, les valeurs, c'est ça. C'est parce de l'affectif. Vous êtes dans l'affectif. Vous nous parlez des viols de Cologne. C'est vrai, ils ont été minorés, mais.
Ah bah, en quoi ça doit dicter une politique alors que les femmes qui sont sur le bateau, en l'occurrence, les gouvernements italiens et maltais ont refusé de les accueillir en disant on ne va pas laisser une ONG violer notre frontière, parce que c'est quand même au gouvernement de défendre sa frontière. En revanche, ils ont envoyé.
Ils ont envoyé des médecins,
de la nourriture sur le bateau. Donc, il n'y avait absolument aucun danger de mort. Et en l'occurrence, le pays d'accueil dans le droit de la mer qui doit accueillir le bateau, c'est le port le plus proche, c'était la Tunisie. Alors, pourquoi la Tunisie n'est jamais mise sur le banc dans le débat?
Revenons sur Merkel. Quand elle accueille le million, il y a certes les principes et les valeurs, mais il y a aussi les intérêts de l'Allemagne.
Elle répond
à la demande du patronat allemand.
Bien sûr.
D'un besoin de main-d'œuvre, parce que ces migrants, on les voit comme des va-nu-pieds, des miséreux et tout ça. Mais dans le lot, quand vous prenez par exemple les Syriens, vous avez les classes moyennes. Vous avez des ingénieurs, vous avez des médecins, vous avez des logiciens, vous avez tout ce que vous voulez. C'est pas le bas du panier. Non, mais d'accord.
Et surtout, la main-d'œuvre pas chère.
Non, mais.
La
façon dont je vois les choses, c'est que on est manifestement à la croisée du chemin du point de vue de l'Europe. En France, on réagit comme si, en fait, l'Europe, c'était 27 pays qui allaient dans la même direction. On est resté sur le schéma des années 2000. On est 27 pays qui allaient vers la même direction, mais on n'y va pas avec la même vitesse au même pas. La réalité, elle n'est pas celle-ci. La réalité, c'est que l'Europe est fragmentée. Vous avez l'Europe de l'Est, l'Europe orientale, Pologne, Hongrois, machin. Eux sont prêts à revenir en arrière sur les engagements, sur les valeurs, sur les fondamentaux. Les Scandinaves, ça leur va très bien tel que. Les Anglais se sont barrés. Et en réalité, l'Europe dont les Français parlent, c'est un peu l'Europe du Sud et l'Allemagne. Et l'Allemagne, aujourd'hui, c'est la chancelière.
Les Allemands aussi.
Non, mais c'est pas que les Allemands.
L'Allemagne, c'est les Allemands qui
est devant un choix fondamental et qui, quelque part, détient l'avenir de l'Europe.
On va en parler demain matin. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Et l'intersyndicale d'Air France annonce la suspension de la grève prévue du 23 au 26 juin. Tous les syndicats, sauf les pilotes du SPAF, ils veulent attendre la nomination du nouveau PDG de la compagnie aérienne qui doit être désigné d'ici un mois pour évoquer la question des hausses de salaire. Grève à la SNCF, mais pas de gros retard signalé pour le premier jour du baccalauréat. Les 558 000 élèves de terminale planchaient ce matin sur la philosophie avec cette question, par exemple, pour les élèves des sections littéraires, la culture nous rend-elle plus humains ?
Le recours de deux associations contre la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Avant cette mise en application prévue pour le 1er juillet, la Ligue de défense des conducteurs et l'Automobile Club des avocats saisissent le Conseil d'État. Pour eux, cette mesure du gouvernement rompt le principe d'égalité entre les territoires ruraux et urbains. Le mondial de Russie, la Tunisie vient d'égaliser face à l'Angleterre, un partout, après 40 minutes de jeu. Chapeau pour la Belgique face à Panama avec une victoire 3-0. La Suède a battu la Corée du Sud 1-0. Et puis en Grande-Bretagne, la chambre haute du Parlement inflige une nouvelle défaite au gouvernement sur le Brexit. Les Lords adoptent ce soir une large majorité un amendement. Il offre au Parlement un droit de veto sur l'accord final pour sortir de l'Union européenne. Le texte sera soumis mercredi prochain aux députés.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, en attendant la rencontre demain entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, où ils parleront voilà, du sort de l'euro, mais surtout de la crise migratoire en ce moment qui est en tête de toutes les chancelleries européennes. Stéphane Vernet, vous vouliez rajouter
Non, je voulais dire que la migration est un défi européen qui nécessite une réponse européenne. Alors ça, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit à Strasbourg, mais c'est aussi Angela Merkel qui l'a dit aujourd'hui. En fait, contrairement à ce qu'on se disait tout à l'heure, ils sont tout à fait... Tout le monde est d'accord pour dire que la problématique des migrations en Europe, elle doit être gérée à l'échelle européenne.
Stéphane, est-ce que c'est pas nouveau? Est-ce que c'est pas depuis 5 ans, on entend ça, en fait?
Oui, mais alors deux choses. Ce que tout le monde dit, ah bah oui, mais l'Europe fait rien, c'est la faute de l'Europe. Non, en fait, le problème, si vous voulez, c'est que les États qui composent l'Europe ont dit non. Les questions de migration, c'est-à-dire l'accès, etc., à l'accueil, ce sont des questions éminemment nationales. Oui. Donc, elles n'ont pas voulu transférer cette question. Aucun des États, les États membres n'ont pas voulu transférer cette question à l'Europe. C'est pour ça aussi que l'Europe est handicapée, entre guillemets, par rapport à cette question. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit que dans la rencontre qui a lieu demain à Berlin, en préparation du prochain sommet européen, c'est de dire, on va parler de budget, mais surtout, on va parler de migration. Et ils sont d'accord pour dire, on a besoin de trouver une solution commune. Là où c'est quasiment indétricotable et impossible à bâtir ensemble, c'est qu'effectivement, il y a plein de pays qui n'ont pas du tout la même approche par rapport à la question. Donc c'est peut-être aussi l'occasion maintenant de se dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir une Europe à deux vitesses, c'est-à-dire une approche différenciée avec des groupes de pays, par exemple, qui diraient, nous, on est pour accueillir un certain nombre de migrants, on se les répartit entre nous, et puisqu'on veut créer un budget européen...
Ça voudrait dire une Europe sur tous les dossiers à deux vitesses, ça veut dire aussi,
Mais le problème, c'est que l'Europe, quand elle avance plus sur certains dossiers essentiels et quand elle est en panne, soit on constate qu'elle est en panne, on se dit ah mon Dieu, il faudrait faire quelque chose et on peut pas avancer, soit on trouve des biais, c'est-à-dire soit on trouve des solutions qui permettent d'avancer avec des
c'est pas un peu minoritaire aujourd'hui l'Europe qui souhaite accueillir un nombre de migrants.
C'est ce que propose aussi Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets en disant on peut progresser sur certains points essentiels en ayant un groupe qui va plus vite que les autres et les autres avec l'espoir que les autres rejoindront à terme.
Sauf que les autres suivent pas. En fait le problème c'est qu'on n'est plus dans une direction commune. Là, en fait, ça peut se dénouer assez facilement parce que ce qu'on n'a pas dit sur l'histoire en Allemagne, c'est que la sortie du ministre allemand arrive parce qu'il y a aussi des élections en Bavière et il y a peut-être un numéro de clown qui nous est joué entre Merkel et son ministre le temps que cette élection passe. Après, il y a une deuxième façon de voir les choses qui est de dire en réalité, ce qui vient de se déclencher, c'est le compte à rebours pour aller vers de nouvelles élections législatives, alors que les Allemands en ont connu il y a quelques mois, mais qui n'ont pas permis de dégager une majorité claire. Et le troisième point, ce qui va peut-être faire réfléchir les électeurs allemands, qui devraient faire les réfléchir en fait tous les électeurs, c'est qu'on est en train d'assister à une résurgence du nationalisme, d'un nationalisme virulent dans toute l'Europe, qui n'offre pas de perspective, mais qui donne l'illusion à une partie des peuples de retrouver ainsi comme une capacité de décision et de souveraineté.
En tout cas, on aura.
Quel est le problème?
Le fait est qu'il y a plus qui prennent des décisions, donc c'est pas un fantasme.
Quand on voit les Britanniques qui ont fait le Brexit, aujourd'hui, franchement, j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment repris leur destin en main alors que c'était leur objectif.
On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir demain à l'occasion de la rencontre à Berlin entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Parce que nous, là, on va parler encore de politique, puisqu'il y a un an, le monde politique français découvrait plein de nouveaux piou-piou. Mais oui, des nouvelles têtes, la plus plupart appartenant au groupe La République En Marche. Promesse de renouvellement, société civile au taquet, hein, qui allait donner une bonne leçon à l'ancien monde politique. Un an après, on retient surtout qu'ils sont très fatigués. Voilà. Et même ceux des autres groupes, d'ailleurs, les députés n'en peuvent plus, ils sont cuits, mais il y a autre chose. On commence à sentir, au sein du groupe de La République En Marche, certaines fractures. Des sujets comme l'écologie ou l'immigration déchirent un groupe qui, jusque-là, montrait une discipline sans faille pour les réformes gouvernementales. Un an après, la réoxygénisation de la politique a-t-elle eu lieu ? En tout cas, même si on est nombreux, qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est vraiment une super ambiance. La députée de Paris, La République En Marche, Olivia Grégoire.
Moi, je me rappelle, il y a un an, jour pour jour, des procès en godillerie qui nous étaient faites. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est capable de s'émanciper un peu. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on parvienne à affirmer une ligne qui soit claire sur un certain nombre de projets. Mais je dois dire que moi, j'ai le sentiment que ce groupe est très énergique et que c'est plutôt sain. C'est ce que je vis au quotidien, même si parfois, ça peut frotter un peu.
Ouais, député de Paris, La République En Marche, Olivia Grégoire, ce matin sur Europe 1. Philippe Moreau-Chevrolet, 300 députés La République En Marche qui faisaient leur entrée il y a un an au Palais Bourbon. Ils ont changé depuis un an.
Ils sont beaucoup plus fatigués, oui. Alors c'est paradoxal.
Alors, il y a pas
parce
que ça inquiète tous les groupes.
On les accuse d'être effectivement des godillots, ouais. Comme elle le disait, mais en même temps ils bossent sans arrêt. C'est vrai, ils sont beaucoup plus présents à l'Assemblée nationale, ce qui pose des gros problèmes logistiques. Il faut les loger, faut les nourrir, faut les ramener chez eux, etc. Donc ça paraît accessoire.
Oui, c'est clair. Colonie
de vacances. Il faut comprendre une chose, c'est que la plupart et ça a vraiment pas du tout été compris. Ils sont très premier degré en marche. Alors ça veut pas dire premier, ça veut pas dire crétin ni quoi que ce soit. Premier degré, ça veut dire on a été élu pour faire quelque chose, on va faire ce quelque chose. Et si vous commencez à vouloir nous torturer, nous pousser à droite à gauche, non, nous on est droit dans nos bottes. Ça se fissure tout simplement parce que c'est très hétérogène cette majorité. Il y a des vrais politiques au sein de cette majorité qui étaient là avant, des Richard Ferrand, et puis il y a des gens très nouveaux qui étaient là avec toutes leurs convictions et qui voient que leurs convictions sont un petit peu en décalage avec la réalité et la cohabitation entre les vieux, plus experts, plus roués. Et les nouveaux, compliqué à organiser.
Pour vous, c'est entre les plus, on va dire, chevronnés, expérimentés et les nouveaux plutôt qu'entre droite et gauche.
Il y a les deux. C'est une majorité qui a été composée de beaucoup de PS qui découvrent, oui. Oh, stupeur, que bah, Macron, il n'est pas très à gauche quand même. Il y a 4% des Français qui le pensent quand même qu'il est à gauche, mais en dehors de ces 4%-là, il y a plus grand monde. Et puis, il y a les vieux qui, eux, se disent, bon, bah, nous, on est arrivés au pouvoir avec, on a quand même réussi un tour de force incroyable, qui est incroyable, d'avoir vidé tous les autres partis de leur substance et d'avoir pris le pouvoir. Pour une majorité qui a vraiment des résolutions à mettre en place. Donc c'est cette cohabitation de cultures différentes qui est compliquée. Il y en a beaucoup aussi qui se disent que c'est la dernière fois qu'ils seront députés. Parce que, un, c'est crevant. Deux, ils n'ont pas l'impression de gagner leur vie par rapport à leurs emplois antérieurs. Et trois, quel est le changement que un député sur 577 va pouvoir insuffler ? Eh ben pas grand chose.
Ouais, c'est ça. Alors Stéphane Vernet,
puis ils seront peut-être pas réélus la prochaine fois.
Voilà, alors, oui, alors ça c'est autre chose, mais comme pense que Macron va être réélu, mais je vais vous dire non juste, il y a une députée qui m'a dit moi je me suis présenté le 6 mai, j'ai été élu le 6 juin. C'est des députés qui se disent bon bah
express comme
le Uber député, une fois, on peut le refaire, voilà.
Des Uber députés ce côté godillot, il existe plus, Stéphane Vernet. Vraiment, comme le dit Olivia Grégoire, parce que quand on a parlé à un moment de, bon, c'est un peu excitant, on s'excite vite dans les journalistes, et le côté fronde, notamment sur la loi asile immigration, il y a quand même 15 abstentions, seulement une personne a voté contre, on n'est pas quand même dans une fronde très accentuée.
Non mais deux choses. Un, est-ce que ce côté godillot, il a vraiment existé ? C'est-à-dire c'est un procès qui leur a été fait dès le départ. Moi je pense que c'est surtout un problème d'inexpérience. Vous aviez, je crois de mémoire, il y avait plus de 40% des députés En Marche élus qui n'avaient jamais fait de politique. C'est énorme. Ce sont des gens en fait qui ont dû tout apprendre à marche forcée pour le coup. Donc les hésitations du début, moi je pense qu'elles sont assez normales. Et donc on les a accusés quand on dit que c'est des députés Godillot, on les a accusés de suivisme, de pas c'est savoir, ça, ouais. etc. Regardez comment ils ont monté en gamme, sur le fond, sur la forme, ils bossent, contrairement à ce qu'on peut lire ici et là. Alors il y a peut-être quelques-uns qui sont pas souvent dans l'hémicycle, mais c'est pas la majorité. C'est-à-dire que dans
on les accuse encore un peu quand même d'amateurisme, véritablement, un an
mais
après.
Mais oui, mais la plupart, ils ont qu'un an au compteur, et puis alors ils se sont enquillés du lourd en un an, hein, quand même. Et puis il y a un rythme qui n'était pas piqué des hannetons. Donc voilà. Donc ce côté Godillot, moi je pense que c'est un faux procès, c'est une figure de style. Enfin, j'ai du mal à souscrire à ça. Après, je pense qu'ils sont montés en régime, je pense qu'ils sont montés en expérience, mais ils se sont aussi affirmés. Donc, il y a une expression quand ils sont pas d'accord. On les a vus quand vous avez une Sonia Crimi.
Mais c'est fait.
Non, il n'y en a pas qu'une.
Alors on va voir pourquoi. Parce que j'ai des petites questions. Ne t'inquiète pas, Stéphane Vernet. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Alors que les Républicains sont en pleine
pleine tourmente. Laurent Wauquiez s'exprime ce soir depuis Lyon. Le chef du mouvement, ce week-end, a évincé sa numéro 2, Virginie Calmels. Invitée du 20h de TF1, l'a précédée. Elle lui reproche d'imposer une ligne unique, populiste et identitaire. Donald Trump ne veut pas laisser les États-Unis devenir un camp de migrants. Le président américain répond notamment aux Nations Unies, qui contestent le fait que Washington ait séparé une centaine d'enfants de leurs parents, près de 2000 illégaux interpellés ces dernières semaines à la frontière avec le Mexique. Jérôme Kerviel saura le 20 septembre s'il a une chance de voir son procès pénal révisé. Les avocats de l'ancien trader ont plaidé sa cause cet après-midi devant la cour de révision. Kerviel, condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir fait perdre 4 milliards 900 millions d'euros à la Société Générale, 10 ans de guérilla juridique. Volkswagen suspend le patron d'Audi incarcéré en Allemagne dans l'affaire du Dieselgate. Décision aujourd'hui de la justice allemande à l'encontre de Rupert Stadler dans cette enquête sur le scandale des moteurs truqués. Il était au volant de cette filiale de Volkswagen depuis 11 ans. Et puis un bicorne de Napoléon ramassé à Waterloo, adjugé à 350 000 euros. Le geste à l'époque d'un capitaine des dragons hollandais. Cette vente a été adjugée cet après-midi à Lyon. Pas de précision sur l'acheteur. En 15 ans de règne, il faut savoir que l'empereur Napoléon aurait usé 220 bicornes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, après les 1 an d'élection d'Emmanuel Macron, fait les 1 an de nos députés. Hein. La Chambre était presque entièrement renouvelée, que ça soit aussi bien à droite, à gauche, et donc La République En Marche qui faisait son entrée avec 300 députés. Juste Charlotte Dornelas, vous, comment vous les voyez aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours godillots? Ils se sont au contraire émancipés? On voit en effet des personnalités qui ne sont pas majoritaires, mais on a senti, notamment, on a retenu peut-être dans l'opinion ce nom, c'est Mathieu Orphelin, qui est un proche de Nicolas Hulot, qui lui est monté véritablement au créneau sur le glyphosate, sur les choses comme ça.
Mais il y en a quelques-uns qui sont montés au créneau, mais la plupart, en fait, c'est vrai que pendant 1 an, ils ont eu la parole peut-être moins facile que des députés qui en avaient fait leur métier, quasiment, de parler aux médias les années précédentes. Mais c'est un peu la seule question qui s'est posée finalement chez ces députés et chez ceux qui, en tout cas, ont parlé en disant, je représente plusieurs personnes, etc., c'est qu'on a vu qu'il y avait un clivage qui naissait, un clivage très naturel. En fait, je pense que c'est beaucoup plus gauche-droite que la question de l'expérience ou pas. C'est des gens, pour beaucoup, qui ont été élus l'année dernière, je ne sais pas si c'était tant sur des convictions que finalement sur une volonté d'alternative sur le modèle politique. Emmanuel Macron, à l'époque, avait fait une campagne qui avait rassemblé beaucoup de gens très différents. Et on découvre au bout d'un an, quand il travaille, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui travaillent, qu'il y a des clivages qui sont un peu naturels et qui persistent. Après, ils ont Emmanuel Macron à leur tête, qui manie très bien le en même temps. C'est pas forcément aussi évident quand on est un député de le manier comme ça, et sachant qu'en plus il y a un chef à la tête. À la tête du pays et que qu'il le rappelle assez régulièrement. Quand même.
Une chose, Maïk Lounès d'ailleurs, Richard Ferrand, vous, et qui vient de vos rangs, hein, d'ailleurs, enfin comme beaucoup de gens, mais c'est vrai que juste parmi dans cette chambre, outre La République en Marche, il y a des nouveaux visages hein, qui sont apparus en politique, même dans les médias qu'on connaissait peu. On pense même à Valérie Rabault, par exemple, au PS, Adrien Quatennin chez Insoumis, ou même Sébastien Chenu au Rassemblement National. On a vu des nouveaux visages, et pourtant jamais on a autant entendu que l'Assemblée nationale était une chambre d'enregistrement seulement. Comment ça se fait?
Parce qu'il y a un exécutif très fort qui repose sur la parole du président et que cette parole, il n'y a pas beaucoup d'endroits où elle se discute.
C'était pas le cas avant.
Quand c'était les socialistes ou la droite, au sein des groupes parlementaires ou au sein des partis, puisque pour le coup il y avait des partis, oui, vous aviez de vrais débats politiques. Les partis politiques sont utiles de ce point de vue-là. Mais là, pour moi, ce qui est de Macron, il n'y a pas de parti politique. Donc, il n'y a pas d'endroit où il peut y avoir un débat collectif, où des courants peuvent s'organiser, où des pôles... Moi, ce que je dirais du groupe parlementaire, c'est que c'est une pétaudière qui tient. Elle tient tant que Macron ne dévisse pas. Quand Macron va dévisser, vous remarquerez, quand Macron va dévisser, parce que moi, je pense qu'il va dévisser.
Très bien, d'accord.
Là, ça va être une autre histoire, parce qu'il y a encore une fois... en politique, il y a des fondamentaux, il y a des points d'équilibre. Si vous n'organisez pas le débat, si vous ne permettez pas des courants de pensée de s'exprimer, puisque surtout quand vous tapez large, puisque vous êtes cette majorité large, Ça tient tant que ça tient, puis à un moment, ça tient plus.
Philippe Bonchevrolet, sur cette chambre d'enregistrement, on dit maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entendait moins auparavant, et même sur la fatigue des députés, on s'est rendu compte que la première année sous François Hollande, on ne se souvenait plus, mais les députés se plaignaient déjà d'être fatigués. Vous voyez, donc ça passe tout le temps les textes. Mais pourquoi on a plus l'impression, là, en effet, que c'est une chambre d'enregistrement, que les débats, et pourtant ils ont lieu, ils se discutent jusqu'à 3h du matin,
mais non, ça n'apprête pas. Pas vrai.
Mais je pense le groupe est mieux tenu qu'il l'était sous Hollande, ce qui est vrai, il n'y a pas de frondeur.
Attendez, les députés de La République En Marche vont présenter des amendements directement en séance. C'est-à-dire qu'en fait, traditionnellement, c'est avec sa propre famille politique qu'on arrête un certain nombre d'amendements qui sont ensuite portés collectivement par votre groupe politique en séance. Là, ce n'est pas du tout ça. Il y a des gens qui décident comme ça, hop, ils ont le droit, puisqu'ils sont députés souverains quelque part. Ils vont en séance, ils déposent leur amendement, ça tourne à la. Enfin, je veux dire, il y a un côté un peu n'importe quoi, mais je crois que ça sert un peu de soupape et ça arrange le pouvoir. Là, et je terminerai là-dessus, là où comment ça pourrait évoluer, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il y ait de nouveaux groupes qui émergent à l'Assemblée nationale, qui soient les courants qui normalement sont représentés au sein des partis, mais comme En Marche, il n'y a pas de parti, ça risque de se faire à l'Assemblée
nationale. On est aussi beaucoup, Philippe Bonchevrolet, quand même pour des gens qui, c'est comme au gouvernement, qui doivent beaucoup à Emmanuel Macron. Ça veut dire que sans Emmanuel Macron, ces gens ne seraient pas élus, contrairement à avant où c'était vraiment des locaux implantés.
On a 300 histoires différentes de rencontres avec Emmanuel Macron qui sont soldées par tu vas devenir mon candidat, qui sont soldées par une élection. Donc il y a une très forte fidélité individuelle des députés à Emmanuel Macron. Ils ont tous des histoires comme ça. Ouais. Puis il y a des individualités flamboyantes comme Cédric Villani qui donnent du sens aussi à cette majorité. Après, moi, je pense simplement que le groupe est mieux tenu. L'exécutif a gardé le souvenir des frondeurs et de François Hollande, et en particulier Macron, qui a dû se battre à l'époque pour sa propre loi. On garde le souvenir assez vif. Donc, dès le départ, ils se sont dit on va discipliner les députés avec la menace de réduire le nombre des députés, avec une discipline budgétaire, etc. Donc, l'Assemblée est tenue. Il faut dire aussi que la Ve République donne beaucoup, beaucoup trop de pouvoir à l'exécutif.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Désolé, Charles Dornelas,
c'est pour la prochaine fois,
quand on fêtera les un an et un jour peut-être, je ne sais pas cette majorité. Allez, ça doit se terminer. Merci beaucoup Philippe Bonchevrolet d'être passé. Merci Charlotte Dornelas, merci Mel Clunès. La Ligne de West France demain, Stéphane Vernet.
Les Républicains.
Ah tiens, c'est pour changer. Très bien, retrouver en tout cas dans West France. Il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour tout est politique au programme ce soir.
Les Républicains, encore et encore. Nous parlerons également de la pression sur Mme Merkel au sujet des migrants et nous jetterons un œil sur la loi Pacte. Et oui, c'est très sérieux chez nous. Relance l'escure.
Merci. Nous, c'était pour déclarer.
Je donne du courage. Je me donne du courage. Il y a 70 articles, c'est un peu compliqué.
Et ils sont tous lus ce soir en plus.
Avec Roland Lescure de La République En Marche, Sophie Primas des Républicains, Olivier Dartigol du Parti Communiste et Gilles Bornstein de France Info.
Bien sûr, tout est politique et c'est dans quelques minutes ce soir.